3. Changement de vie. Une brusque transformation d'existence s'opéra dans notre maison après notre installation à la campagne. La vie de mes parents, jusque-là insouciante et gaie, prit aussitôt une tournure très sérieuse. Avant cette époque, mon père n'avait pas attaché grande importance à l'éducation des enfants. C'était, selon lui, l'affaire des femmes et non des hommes. Il s'occupait un peu plus d'Agnota que des autres, parce qu'elle était l'aînée et qu'elle était très amusante. Il l'emmenait quelquefois promener avec lui en traîneau pendant l'hiver et s'en faisait honneur devant le monde. Lorsqu'on venait se plaindre à lui des espiègleries qu'elle se permettait et qui dépassaient parfois toute mesure et exaspéraient la maison entière, mon père tournait généralement la chose en plaisanterie. Agnota comprenait du reste fort bien que s'il prenait un air sévère, c'était pour la forme. Au fond, il était prêt à rire de toutes ses malices. Quant à nous, les petits, nos rapports avec notre père se bornaient à peu de choses. Il nous pinçait les joues amicalement lorsqu'il nous rencontrait, pour s'assurer qu'elles étaient potelées, demandait à Nyanya comment nous nous portions, et quelquefois il nous prenait dans ses bras pour nous faire sauter. Les jours de fêtes officielles, quand mon père se rendait en grand uniforme à quelques cérémonies, couvert de ses décorations, on nous appelait au salon pour admirer notre papa en tenue de parade, et cette vue nous causait le plus vif plaisir. Nous sautions autour de lui, battant des mains avec enthousiasme à l'aspect de ses brillantes épaulettes et de ses croix. Mais ces relations pleines de bonhomie cessèrent aussitôt après notre arrivée à la campagne. Ainsi qu'il advient souvent dans les familles russes, mon père découvrit subitement, sans y être le moins du monde préparé, que ses enfants étaient loin d'offrir le modèle d'une bonne éducation comme il se l'était imaginé. Cette découverte se fit un jour que ma sœur et moi disparûmes jusqu'au soir, égarés loin de la maison. Lorsqu'on nous retrouva, nous avions eu tout le loisir de nous bourrer de fruits sauvages et nous fûmes malades pendant plusieurs jours. Cet événement démontra que nous étions peu surveillés et cette découverte en amena d'autres. Les désillusions se succédèrent. On avait cru jusque-là que ma sœur était, à peu de choses près, une enfant prodige, intelligente et très développée pour son âge. On s'aperçut maintenant qu'elle était non seulement très gâtée, mais encore tellement ignorante qu'à l'âge de 12 ans, elle ne pouvait pas même écrire le russe correctement. Les jours qui suivirent notre escapade me reviennent tristement à la mémoire comme une sorte de désastre domestique. On entendait dans notre chambre d'enfant que larmes et gémissements. Tout le monde se querellait, tout le monde était grondé, chacun recevait son paquet à tort ou à raison. Papa était en colère, maman en larmes, Nyanya hurlait, mademoiselle faisait des préparatifs de départ avec des gestes de désespoir. Ma sœur et moi, devenues très douces, nous tenions couettes et n'osions bouger, sachant bien que la moindre incartade nous serait imputée à crime, chacun étant fort disposé à décharger sur nous sa propre irritation. Nous n'étions cependant pas exemptes d'une certaine curiosité. Nous regardions les grands se disputer entre eux avec une satisfaction enfantine d'assez mauvais aloi. Comment cela finira-t-il ? Disions-nous en attendant. Mon père, qui n'aimait pas les demi-mesures, prit le parti d'opérer une réforme radicale dans tout le système de notre éducation. La française fut remerciée, Nyanya éloignée de la chambre des enfants et chargée de la lingerie. Et deux nouveaux personnages firent leur apparition dans la maison, un précepteur polonais et une institutrice anglaise. Le précepteur se trouva être un homme doux et instruit, donnant d'excellentes leçons, mais il n'eut pas grande influence sur mon éducation. L'institutrice, au contraire, introduisit un élément nouveau dans notre famille. Quoiqu'élevée en Russie et parlant bien le russe, elle avait conservé intact tous les traits de caractère particuliers à la race anglo-saxonne, la droiture, l'énergie, la force de persévérer dans une entreprise et de la mener à bien. Ces qualités lui donnaient une grande supériorité dans notre maison, où l'on se distinguait par des qualités diamétralement opposées. C'est ce qui explique l'influence qu'elle exerça sur tous. À peine entrée chez nous, elle s'appliqua de toutes ses forces à faire de notre chambre d'enfant une « nursery » où pourraient s'élever de jeunes « Mrs. Model ». Et Dieu sait s'il est difficile de créer une pépinière de Mrs. anglaise dans une maison de propriétaires russes où les habitudes seigneuriales, la négligence, le laisser-aller, se développait depuis des siècles, de génération en génération. Grâce à sa remarquable énergie, elle en vint cependant à bout, du moins jusqu'à un certain point. Ma sœur, habituée à une complète indépendance, ne fut, il est vrai, jamais domptée. Près de 2 ans se passèrent en lutte et en incessantes discussions. Au bout de ce temps, Agnota, ayant atteint ses 15 ans, fut dispensée de toute soumission envers l'institutrice, et son émancipation fut marquée par son installation dans une chambre voisine de celle de ma mère. Depuis ce jour, Agnota fut considérée comme une grande personne, et l'institutrice, chaque fois que l'occasion s'en présentait, ne manquait pas d'expliquer clairement que la conduite de ma sœur ne la concernait plus en rien, qu'elle s'en lavait les mains. Tous les soins de l'institutrice se concentrèrent dès lors sur moi avec une rigueur d'autant plus grande. Elle m'isola le plus possible du reste de la maison pour me mettre à l'abri de l'influence de ma sœur comme d'une maladie contagieuse. La distribution de notre maison à la campagne se prêtait aux efforts de l'institutrice pour nous séparer. 3 ou 4 familles y auraient vécu à l'aise sans se gêner mutuellement et au besoin sans se connaître. Presque tout le rez-de-chaussée était réservé à mon institutrice et à moi, à l'exception de quelques chambres d'amis et de domestiques. Le premier étage contenait les chambres de réception, l'appartement de ma mère et d'Agnota. Fedia et son précepteur occupaient une aile, et le cabinet de papa, situé au rez-de-chaussée d'une tour à 3 étages, était complètement séparé du reste de l'habitation. Les divers éléments composant notre famille avaient donc chacun leur propre territoire. On pouvait suivre sa voie particulière sans gêner personne. On ne se retrouvait qu'à l'heure du dîner et le soir au thé. 4. Notre vie de campagne. L'horloge de la chambre d'études sonne 7 heures. J'entends, malgré le sommeil, les 7 coups répétés. Il suscite en moi la triste conviction que ma femme de chambre, Dunyasha, va venir me réveiller. Mais je suis encore délicieusement engourdi, et je cherche à me persuader que ces terribles 7 coups sont un effet de mon imagination. Je me tourne de l'autre côté, m'enveloppant plus étroitement de mes couvertures, pour jouir des dernières précieuses minutes de cette précaire béatitude, car je sais bien qu'elle va cesser. Effectivement, voici la porte qui grince. J'entends le pas pesant de Dunyasha qui entre dans la chambre avec une charge de bois pour le poêle. Vient ensuite la série des bruits familiers qui se répètent chaque matin. Les bûches jetées à terre, les allumettes qu'on frotte, le pétillement des copeaux, le murmure et le bruissement de la flamme. J'entends ces sons bien connus au travers de mon sommeil, et ils augmentent la sensation de bien-être que me donne mon petit lit, ainsi que le regret de le quitter. Dormir 1 minute, rien qu'une minute, mais le pétillement de la flamme s'accentue dans le poêle et devient un ronflement régulier et cadencé. « Mademoiselle, il est temps de vous lever !» retentit à mon oreille, et Dunyasha me retire impitoyablement mes couvertures. Au dehors, le jour commence à poindre, et les premiers rayons de soleil blafards d'une froide matinée d'hiver, joints à la lueur jaunâtre de la bougie, donnent à tout ce qui nous entoure un aspect morne et inanimé. Est-il rien de plus déplaisant que de se lever à la chandelle? Je me mets sur mon séant et commence machinalement ma toilette. Mais mes yeux se ferment involontairement, et ma main qui tient un bas s'engourdit en le soulevant. Derrière le paravent qui dissimule le lit de mon institutrice, j'entends déjà un bruit d'eau qu'on verse et dans laquelle on se lave énergiquement. « Ne flânez pas, Sonia. Si vous n'êtes pas prête dans 1 quart d'heure, vous porterez l'écriteau de paresseuse sur le dos pendant le déjeuner. » Cette menace n'est pas une plaisanterie. Les punitions corporelles sont bannies de notre éducation, mais l'institutrice les remplace par d'autres moyens d'intimidation. Si je me rends coupable de quelque faute, on m'épingle entre les épaules une bande de papier sur laquelle ma faute est inscrite en gros caractères, et je parais à table avec cet ornement. Cette punition m'est odieuse. Aussi la menace de mon institutrice a-t-elle le don de dissiper instantanément mon sommeil. Je saute du lit. Ma femme de chambre m'attend près de la toilette. D'une main, elle soulève une cruche, et de l'autre, elle tient une serviette éponge. On m'arrose d'eau froide à la mode anglaise. Pendant 1 seconde, le froid me saisit vivement, puis c'est de l'eau bouillante qui coule dans mes veines, et tout mon corps éprouve ensuite une impression de souplesse et d'extrême vigueur. Il fait tout à fait jour maintenant. Nous montons dans la salle à manger. Le samovar bout sur la table. Le bois craque dans le poêle, jetant sur les grandes fenêtres, couvertes de givre, une flamme vive qui s'y reflète et les illumine. Plus trace de sommeil. Je me sens au contraire toute disposée à une joie sans cause. Je voudrais rire, courir, m'amuser. Ah, si j'avais un compagnon de mon âge avec qui lutter, jouer, dépenser un peu de cette exubérance de vie et de santé qui bouillonne en moi comme une source. Mais je n'ai pas de compagnon. Je bois mon thé avec l'institutrice, car les autres membres de ma famille, sans en excepter mon frère et ma sœur, se lèvent beaucoup plus tard. Mon envie de rire et de m'amuser est si irrésistible que je fais une faible tentative pour plaisanter avec mon institutrice. Malheureusement, elle n'est pas de bonne humeur aujourd'hui, ce qui lui arrive fréquemment le matin à cause d'une maladie de foie dont elle souffre. Elle considère comme un devoir de calmer cet accès de gaieté déplacé en me faisant remarquer qu'il s'agit pour le moment de travailler et non de rire. La journée commence pour moi par une leçon de musique. Dans la grande salle d'en haut, où se trouve le piano à queue, la température est fraîche. Aussi mes doigts sont-ils engourdis et gonflés, et mes ongles ont des taches bleuâtres. Une heure et demie de gammes et d'exercices, accompagnée de petits coups monotones de la baguette, avec laquelle mon institutrice marque la mesure, voilà de quoi jeter un froid sur la joie de vivre du commencement de ma journée. Après la leçon de musique, d'autres viennent. Lorsque ma sœur travaillait aussi avec l'institutrice, les leçons avaient pour moi un grand attrait. J'étais alors si petite, il est vrai, qu'on ne me prenait pas au sérieux, mais j'obtenais la permission d'assister aux leçons de ma sœur, et j'écoutais avec une telle attention que, bien souvent, le lendemain, moi, gamine de 7 ans, je me rappelais ce qu'une grande fille de 14 ans avait oublié, et je le lui soufflais triomphante. Cela m'amusait extrêmement. Maintenant, ma sœur comptait parmi les grandes personnes, elle n'étudiait plus, et les leçons avaient perdu pour moi la moitié de leur charme. Je travaillais cependant avec assez d'assiduité. Mais n'aurais-je pas travaillé autrement, avec une camarade d'études? À midi, le déjeuner. À peine le dernier morceau avalé, mon institutrice se dirige vers la fenêtre pour consulter l'état de la température. Je suis ce mouvement, le cœur battant, car cette question est pour moi d'une grande importance. Si le thermomètre marque au-dessous de 10 degrés et qu'il n'y ait pas de grand vent, me voilà condamné à faire la plus ennuyeuse des promenades avec mon institutrice le long d'un sentier frayé pour nous dans la neige et que nous arpentons pendant 1 heure et demie. Si, pour mon bonheur, le froid est plus vif ou le vent violent, mon institutrice va faire seule son indispensable promenade et m'envoie dans la salle d'en haut jouer au ballon avec le but hygiénique de faire de l'exercice. Je n'aime guère ce jeu. J'ai 12 ans et me considère comme une grande fille. Je trouve même blessant que mon institutrice me suppose encore capable de m'amuser à ce jeu d'enfant. Mais je n'en accepte pas moins cette recommandation avec le plus vif plaisir, car elle m'annonce 1 heure et demie de liberté. Le premier étage appartient exclusivement à maman et à Anyuta, mais toutes deux se retirent dans leur chambre à 7 heures. La grande salle reste vide. Je fais en courant quelques tours dans la salle, lançant le ballon devant moi. Mes pensées sont bien loin. Ainsi que la plupart des enfants élevés dans la solitude, je me suis créé un monde imaginaire, riche en rêves de tout genre, dont personne ne peut soupçonner l'existence. J'aime la poésie avec passion. La forme, la mesure du vers, me cause d'une vive jouissance. Je dévore ravidement les fragments de poésie russe qui me tombent sous les yeux, et il faut bien l'avouer, plus elles sont remplies d'emphase, plus elles me charment. En fait, de poésie russe, je ne connais pendant longtemps que les ballades de Joukovski. Personne chez nous ne s'intéressait à cette branche de la littérature, et bien que nous eussions une assez grande bibliothèque, elle se composait principalement de livres étrangers. Nous ne possédions ni Pouchkine, ni Lermontov, ni Nekrassov. La chrestomathie de Filanov, achetée sur la demande de notre précepteur, fut pour moi une révélation. J'avais attendu ce moment avec impatience. J'en restais quelques jours comme affolé, récitant à demi-voix des strophes du « Prisonnier du Caucase » ou de « Mtsiri », jusqu'à ce que mon institutrice menaça de confisquer le précieux livre. Le rythme du vers a toujours exercé sur moi un charme si puissant que, dès l'âge de 5 ans, je faisais des vers. Mon institutrice n'approuvait aucunement ce genre d'occupation. Elle s'était fait un type, nettement défini dans son esprit, d'un enfant bien portant, élevé dans des conditions normales, et qui, avec le temps, devait produire une Miss exemplaire. Les vers russes ne cadraient en rien avec cet idéal. Elle persécuta donc vivement mes goûts poétiques. Si par malheur un bout de papier barbouillé de mes rimes lui tombait sous les yeux, elle me l'attachait aussitôt sur le dos et récitait ensuite mes pauvres essais littéraires devant mon frère et ma sœur en les dénaturant ou les mutilant à plaisir. Cette persécution resta sans effet. À 12 ans, j'avais la conviction intime d'être né poète. La crainte de mon institutrice m'empêchant d'écrire mes vers, je les conservais dans ma mémoire à la façon des anciens bardes et ne les confiais qu'à mon ballon. Tout en courant à travers la grande salle et en le lançant devant moi, je lui déclame parfois 2 de mes œuvres préférées et dont je suis très fier, « Le Bédouin à son cheval » et « Sentiment du pêcheur de perles en plongeant dans la mer ». J'ai dans la tête un grand poème, « Struika », qui tient d'Ondine et de Mtsiri, mais dont je n'ai encore composé que 10 strophes, et il doit en avoir 120. Mais la muse est capricieuse, et l'inspiration ne vient pas toujours à l'heure où il m'est ordonné de jouer au ballon. Et si la muse ne répond pas à mon appel, ma situation devient dangereuse, car je suis entouré de toutes parts de tentations. À côté de la salle est la bibliothèque, et là, sur tous les divans, sur toutes les tables, traînent d'alléchants petits volumes de romans étrangers, et des numéros de revues russes. Il m'est strictement interdit d'y toucher, car mon institutrice est très sévère pour mes lectures. J'ai peu de livres d'enfants, et je connais par cœur ce que je possède. Mon institutrice ne me permet de lire aucun livre, même destiné aux enfants, sans l'avoir préalablement lu elle-même. Mais elle lit lentement, et n'en trouve presque jamais le temps, de sorte que je vis dans un état de famine chronique pour ce qui est de la lecture. Et là, sous ma main, j'ai de si grandes richesses. Comment n'être pas tenté? Je lutte avec moi-même pendant quelques minutes. Je m'approche d'un livre et me contente de l'ouvrir. Je le feuillette, je lis quelques phrases, et vite je reprends ma course avec mon ballon comme si de rien n'était. Mais peu à peu la lecture m'attire. Mes premières tentatives ayant été couronnées de succès, je finis par oublier le danger et je dévore une page après l'autre. Qu'importe ce qui me tombe sous la main. Si ce n'est pas le premier volume d'un roman, je lis le second ou le troisième, avec le même intérêt, mon imagination suppléante à ce qui manque. De temps en temps, cependant, j'ai la précaution de lancer mon ballon, afin que mon institutrice, si elle venait à rentrer, m'entendît jouer conformément à ses ordres. Ma ruse réussit habituellement. J'entends le pas de mon institutrice dans l'escalier, et j'ai le temps de mettre mon livre de côté. Aussi reste-t-elle persuadée que j'ai passé ma récréation à jouer au ballon comme une petite fille bien élevée. 2 ou 3 fois, cependant, je fus prise en flagrant délit, si absorbée par ma lecture que mon institutrice me parut sortir de terre sans que rien m'eût averti de son approche. En pareil cas, comme en général après chaque faute un peu grave, mon institutrice recourait aux grands moyens. Elle m'envoyait chez mon père avec ordre de lui confesser mon crime moi-même. Cette punition me paraissait la pire de toutes. En réalité, mon père n'était pas sévère pour nous, mais je le voyais rarement et seulement à l'heure du dîner. Jamais il ne se permettait la moindre familiarité avec nous, excepté lorsqu'un de nous était malade. Alors il devenait tout autre. La terreur de perdre un de ses enfants le transformait. Sa voix, sa façon de nous parler, témoignait d'une tendresse extrême. Personne ne savait nous caresser ou nous amuser comme lui. Nous l'adorions alors et gardions longtemps le souvenir de ces moments-là. Mais en temps ordinaire, quand nous étions tous bien portants, il avait pour principe qu'un homme doit être sévère et se montrait avare de caresses. Il aimait la solitude et s'était fait un monde à part dans lequel personne n'avait accès. Le matin, il faisait le tour de son exploitation, seul ou avec le régisseur, et tout le reste de la journée, il le passait dans son cabinet, séparé de sa famille. Le cabinet était un sanctuaire respecté de tous. Ma mère elle-même n'y entrait jamais sans frapper. Et quant à nous autres, les enfants, l'idée ne nous serait jamais venue d'y aller sans y être appelé. Aussi, lorsqu'il arrive à mon institutrice de me dire « Va chez ton père te vanter de ce que tu as fait », j'éprouve un véritable désespoir. Je pleure, je me cramponne. Mon institutrice reste inflexible et, me prenant par la main, ou plutôt me traînant à travers une longue suite de chambres jusqu'à la porte du cabinet, elle m'y abandonne à mon malheureux sort et retourne chez elle. Pleurer devient inutile. D'ailleurs, j'aperçois déjà dans l'antichambre qui précède le cabinet un domestique oisif et curieux qui suit tous mes mouvements avec un intérêt insultant. « Vous voilà encore en faute, mademoiselle !» C'est derrière mon oreille la voix tout à fait sympathique et railleuse du valet de chambre de papa, Ilia. Je ne daigne pas répondre. Je cherche à prendre un air dégagé, comme si je venais de mon plein gré chez mon père. Je n'ose cependant rentrer dans la chambre d'étude sans avoir rempli les ordres de mon institutrice et en compliquant ma faute d'une désobéissance notoire. Mais rester là, en but de plaisanterie d'un laquais, est intolérable. Il ne me reste plus qu'à frapper à la porte et à braver courageusement le destin. Je frappe, mais très doucement. Quelques minutes se passent, qui me semblent des siècles. « Frappez plus fort, mademoiselle. Votre papa n'entend pas », fait remarquer l'insupportable Ilia, qui s'amuse évidemment beaucoup. Je frappe encore une fois, il le faut bien. « Qui est là ?» dit enfin de son cabinet la voix de mon père. J'entre, mais je reste sur le seuil dans une demi-obscurité. Mon père est assis à son bureau et, tournant le dos à la porte, ne me voit pas. « Mais qui est donc là ? Qui a-t-il » répète-t-il impatienté. « C'est moi, papa. Marguerite Frantzovna m'a envoyé. » Ma réponse est accompagnée d'un sanglot. Mon père commence à comprendre. « Ah ah, tu as fait quelques nouvelles sottises !» dit-il en donnant une inflexion sévère à sa voix. « Eh bien, raconte, que s'est-il encore passé ?» Et me voilà faisant un rapport contre moi-même, avec force larmes et beaucoup d'hésitation. Mon père écoute, distrait. Ses notions sur l'éducation sont très élémentaires, et toute sa pédagogie consiste à la considérer comme une affaire de femme, pas d'homme. Naturellement, il n'a aucun soupçon du monde intérieur très compliqué qui existe dans la tête de cette petite fille, debout devant lui, attendant sa sentence. Tout occupé à ses affaires d'homme, il n'a même pas remarqué que je ne suis plus l'enfant joufflu d'il y a 5 ans. Il éprouve visiblement un certain embarras à me parler et à prendre un parti convenable dans le cas présent. Ma faute paraît de peu d'importance, mais il est pénétré de l'idée qu'il faut être sévère pour élever des enfants. Il en veut, au fond, à l'institutrice, de n'avoir pas arrangé une chose si simple sans m'envoyer à lui. Mais puisqu'elle a tant fait que de recourir à son intervention, il doit exercer son autorité. Aussi, pour ne pas l'affaiblir, se donne-t-il un air froid et mécontent. « Quelle mauvaise petite fille tu fais! Je suis très fâché contre toi !» Et il s'arrête, ne sachant rien dire de plus. « Va, va au coin !» décide-t-il enfin. Car sa science pédagogique lui a encore gravé ce principe dans la mémoire, les enfants désobéissants doivent aller au coin. Et me voilà, moi, grande fille de 12 ans, absorbée tout à l'heure par l'héroïne du dernier roman, lu en cachette, avec laquelle je venais de traverser les situations psychologiques les plus compliquées, me voilà au coin, comme un petit enfant qui n'a pas été sage. Mon père reprend ses occupations. Un profond silence règne dans la chambre. Je reste là, mais que ne me passe-t-il pas, grand Dieu, par l'esprit et le cœur, pendant ces quelques minutes? Je me rends si vivement compte de l'absurdité de la situation. Si j'obéis, c'est par un sentiment de pudeur qui m'empêche également de faire une scène ou de fondre en larmes. Et cependant, je me sens cruellement offensé. Une colère impuissante me tient à la gorge et m'étrangle. Quelle niaiserie! Qu'est-ce que cela me fait, au bout du compte, de rester au coin ? Me dis-je pour me consoler intérieurement. Mais je souffre de cette humiliation imposée par mon père, ce père dont je suis si fier et que je place au-dessus de tous. passe encore si nous restons seuls. Mais voilà qu'on frappe à la porte, et sous un prétexte quelconque, paraît l'insupportable Ilia. Je sais parfaitement que le prétexte est imaginaire et qu'il ne vient que par curiosité, et pour voir comment mademoiselle est punie. Il a l'air fort indifférent, fait son affaire sans se hâter, et comme s'il ne remarquait rien. Mais en quittant la chambre, il me jette un coup d'œil moqueur. Je le hais. Je reste là, si tranquille que mon père m'oublie parfois, et je suis trop fier pour demander pardon. Enfin, la mémoire lui revient, et il me renvoie avec ces mots « Eh bien, va-t'en, mais ne fais plus de sottises !» Il ne comprend rien à la torture morale subie par sa petite fille pendant une demi-heure. Il serait effrayé, sans doute, s'il avait pu regarder le fond de cette âme, mais cet incident désagréable et enfantin s'efface vite de sa mémoire. Et moi, je quitte son cabinet avec une angoisse si peu enfantine, avec l'impression d'une injure si gratuite que, sauf deux ou trois douloureuses exceptions, la vie ne m'a guère infligé ensuite de minutes plus pénibles. Je rentre dans ma chambre d'études, très calmée et très douce. Mon institutrice est ravie du résultat de sa méthode pédagogique, car je reste tranquille et réservé pendant plusieurs jours, et ma conduite la satisfait pleinement. Elle serait moins satisfaite si elle savait la trace laissée dans mon âme par cette humiliation. Le sort de mon institutrice n'est guère plus heureux que le mien. Seule dans la vie, sans beauté et sans jeunesse, séparée de la société anglaise et ne s'étant cependant jamais russifiée, elle concentrait sur moi tout le besoin d'attachement, de possession morale, dont sa nature rude, énergique, inflexible, était capable. Je représentais vraiment pour elle le centre vers lequel convergeaient ses pensées, le but de son activité. Je donnais à son existence une raison d'être, mais son affection pesante, exigeante, jalouse, ne m'apportait aucune tendresse. Entre ma mère et mon institutrice, l'opposition de nature était si grande qu'aucune sympathie ne pouvait naître. Ma mère, aussi bien physiquement que moralement, était du nombre de ces femmes qui ne vieillissent jamais. Il y avait entre elle et mon père une différence d'âge considérable, et jusqu'à la fin de sa vie, mon père la traita en enfant. Il l'appelait Lise ou Lisoc, tandis qu'elle le nommait respectueusement Vassili Vassilievitch. Même devant les enfants, il lui faisait des remontrances. « Tu dis encore une sottise, Lisochka, » entendions-nous souvent. Maman ne s'offensait nullement et continuait à insister comme un enfant gâté qui se croit le droit de demander même l'impossible. Maman craignait notre institutrice, car l'indépendante anglaise tranchait dans le vif et nous gouvernait sans partage. Quand maman venait dans nos chambres, elle y était reçue en simple visiteuse. Aussi n'y venait-elle pas souvent, et ne se mêlait-elle en rien de mon éducation. J'avais, quant à moi, une profonde admiration pour ma mère. Elle me paraissait plus belle et plus charmante qu'aucune dame de notre connaissance, et cependant elle me froissait toujours. Pourquoi m'aimait-elle moins que les autres? Je me vois assise le soir dans ma chambre d'études. Mes leçons pour le lendemain sont préparées, mais sous un prétexte quelconque, mon institutrice ne me laisse pas monter. Et là-haut, dans la grande salle, située au-dessus de notre chambre, j'entends de la musique. Maman a l'habitude de jouer du piano le soir. Elle joue par cœur des heures entières, compose, improvise, passe d'un thème à l'autre avec beaucoup de goût et un toucher charmant. J'aime infiniment à l'entendre. Sous l'influence de la musique et de la fatigue que me laissent mes leçons, je me sens des élans de tendresse, le besoin de me serrer au cœur de quelqu'un, de me faire caresser. Il ne reste plus que quelques minutes avant l'heure du thé, mon institutrice me laisse enfin partir. Je monte en courant, et voici le tableau que j'aperçois en entrant. Maman a cessé de jouer, elle est assise sur un divan, et à ses côtés, pressés contre elle, sont Aniuta et Fedia. Ils rient et bavardent avec tant d'animation qu'ils ne s'aperçoivent pas de ma venue. Je reste quelques minutes auprès d'eux, espérant me faire remarquer. Mais ils continuent à parler de ce qui les occupe. En voilà assez pour calmer mon ardeur. Ils n'ont pas besoin de moi, me dis-je, et un sentiment d'amère jalousie me transperce l'âme. Au lieu de me jeter au cou de maman, de baiser ses mains blanches, comme je me le figurais en bas dans ma chambre, je vais me cacher loin d'eux dans un coin, et je boude jusqu'au moment où nous sommes servis, après quoi on m'envoie coucher. 5. Mon oncle Pierre Vassilievitch. Cette conviction d'être moins aimé que mon frère et ma sœur me peinait d'autant plus que le besoin d'une affection exclusive se développa en moi de bonne heure. Aussi, lorsqu'un de nos parents ou de nos amis me témoignait un peu plus de sympathie qu'à mon frère ou à ma sœur, j'en éprouvais pour cette personne un sentiment voisin de l'adoration. Je me rappelle surtout, dans mon enfance, mon vif attachement pour mes deux oncles. L'un d'eux était le frère aîné de mon père, Pierre Vassilievitch Korvin-Krukovski. C'était un vieillard d'un aspect pittoresque, haut de taille, avec une tête massive entourée de boucles de cheveux complètement blancs. Son visage, au profil sévère et régulier, aux sourcils en broussailles, au front élevé, traversé de bas en haut par une ride profondément creusée, pouvait paraître sombre et presque dur au premier abord. Mais il s'éclairait d'un regard bon et simple, comme on en voit aux chiens de Terre-Neuve ou aux petits-enfants. Cet oncle appartenait, dans toute la force du terme, à un autre monde. Quoiqu'il fût l'aîné, et dû par conséquent représenter le chef de la famille, chacun en faisait bon marché et le traitait comme un enfant. Depuis longtemps, sa réputation d'homme bizarre, d'original, était établie. Sa femme était morte depuis quelques années, et il avait cédé à son fils unique des terres assez considérables, se réservant seulement une faible pension mensuelle. Ainsi déchargé de toute occupation régulière, il venait assez souvent nous voir à Palibino et y passait des semaines entières. Son arrivée était une fête, et la maison prenait un aspect plus agréable et plus animé tant qu'il restait chez nous. Son coin favori était la bibliothèque. Paresseux à l'excès pour tout exercice corporel, il pouvait rester immobile des heures entières sur un grand divan de cuir, une jambe repliée sous lui, l'œil gauche à demi fermé parce qu'il l'avait plus faible que l'œil droit, et plongé dans la lecture de la Revue des Deux Mondes, son recueil préféré. Lire jusqu'à une sorte d'ivresse, jusqu'à la folie, était son unique faiblesse. La politique l'intéressait beaucoup. Il dévorait les journaux que nous recevions une fois par semaine et les méditait longuement. Que complote encore cette canaille de Napoléon? Dans les dernières années de sa vie, Bismarck lui causa aussi beaucoup de tracas. L'oncle ne doutait pas d'ailleurs que Napoléon mangerait Bismarck, et n'ayant pas vécu au-delà de 1870, il mourut dans cette conviction. Sitôt qu'il s'agissait de politique, mon oncle devenait sanguinaire. Il ne lui coûtait rien d'anéantir d'un coup une armée de 100 000 hommes. Sa rigueur pour les criminels, qu'il châtiait en imagination, n'était pas moins féroce, bien que ces criminels demeurassent pour lui des êtres fantastiques. Dans la vie réelle, tout le monde avait raison à ses yeux. Malgré les protestations de notre institutrice, il condamna tous les fonctionnaires anglais des Indes à être pendus. « Oui, mademoiselle, tous, tous » criait-il. Et dans l'ardeur de son emportement, il frappait du poing sur la table d'un air si dur et si terrible qu'il aurait fait peur à tous ceux qui, en ce moment, seraient entrés dans la chambre. Puis, soudain, il se calmait, son visage prenait une expression de regret, de repentir. Quand il venait de remarquer combien son geste imprudent avait troublé notre levrette grisie, la favorite gâtée de tous, dans son intention de se coucher sur le divan à côté de lui. Mais rien n'égalait l'enthousiasme de l'oncle quand il tombait, dans un journal quelconque, sur la description d'une découverte scientifique. Ces jours-là, nous avions à table de chaudes discussions. Sans lui, le dîner se serait passé dans un morne silence, car, faute d'intérêt commun, on n'avait rien à se dire. Avez-vous lu, petite sœur, ce qu'a inventé Paul Bert ? Disait par exemple l'oncle en s'adressant à ma mère. Ne voilà-t-il pas maintenant qu'il fabrique des frères siamois artificiels ? En joignant ensemble des nerfs de deux lapins, il les fait adhérer. Si l'un des deux est battu, le second souffre. Que dites-vous de cela ? En comprenez-vous toute la portée ? Et l'oncle donne à l'assistance un résumé de l'article qu'il vient de lire, l'embellissant, presque sans en avoir conscience, et le complétant par des déductions si hardies dans leurs conséquences que l'auteur lui-même ne s'en serait sûrement jamais avisé. Une vive discussion commence. Maman et Agnuta prennent généralement parti pour l'oncle et se montrent pleines d'enthousiasme pour la nouvelle découverte. Mon institutrice, avec l'esprit de contradiction qui la caractérise, prend tout aussi invariablement le parti opposé et démontre avec vivacité l'inconséquence, quelquefois même le péché, de cette théorie de l'oncle. Le précepteur donne son avis s'il s'agit d'un renseignement sur un fait quelconque, mais évite prudemment toute ingérence dans la discussion elle-même. Quant à mon père, il représente le critique sceptique et moqueur, prenant tour à tour le parti de l'un ou de l'autre pour montrer les côtés faibles dans les deux camps et les souligner vertement. Ces discussions prennent parfois un caractère de combativité très prononcé. Fatalement, elles font sortir les gens des abstractions pour sauter tout à coup dans le domaine des petites piques personnelles. Les deux adversaires les plus acharnés sont Marguerite Frantzovna et Anyuta. La guerre de 7 ans règne sourdement entre elles et n'est guère interrompue que par des périodes de trêve armée. Si les généralisations de l'oncle frappent par leur hardiesse, l'institutrice ne se distingue pas moins par l'application géniale de chacune de ses théories. Quelle qu'en soit l'abstraction scientifique et l'absence de rapport avec la vie journalière, elle y trouve, de la façon la plus inattendue et la plus originale, les arguments nécessaires pour critiquer la conduite d'Anyuta. Tout le monde enlève les bras au ciel. Anyuta n'est pas en reste et répond avec une impertinence si méchante que l'institutrice saute de sa place à table et déclare qu'après une pareille insulte, elle ne restera plus dans la maison. L'assistance éprouve un malaise général. Maman, qui déteste les scènes et les histoires, s'interpose comme médiatrice et, après de longs pourparlers, la paix est rétablie. Je me rappelle encore la tempête soulevée chez nous par 2 articles de la revue des Deux Mondes. L'un sur l'unité des forces physiques, compte rendu d'une brochure de Helmholtz, l'autre sur des expériences de Claude Bernard qui extirpait à des pigeons une parcelle de cerveau. Combien Helmholtz et Claude Bernard eussent été surpris de la pomme de discorde jetée par eux au milieu de cette paisible famille russe perdue au fond du gouvernement de Vitebsk. Les articles scientifiques et la politique n'avaient pas seuls le don d'enflammer mon oncle Pierre Vassilievitch. Il mettait le même enthousiasme à lire des romans, des voyages, des articles d'histoire. Faute de mieux, il aurait lu des livres d'enfants. Jamais je n'ai vu à personne, sauf à quelques adolescents, une semblable passion de lecture. Passion bien innocente et facile à satisfaire pour un riche propriétaire, et cependant mon oncle ne possédait presque pas de livres. Ce fut grâce à notre bibliothèque de Palibino qu'il put, vers la fin de sa vie, se procurer la seule jouissance à laquelle il attacha du prix. L'extrême faiblesse de son caractère, en si frappant contraste avec son aspect imposant et sévère, le fit toute sa vie la victime de son entourage. Et le joug sous lequel il plia fut si dur, si autoritaire, que la satisfaction de ses goûts personnels ne fut même jamais prise en considération. Cette faiblesse de caractère le rendit impropre au service militaire, seule carrière convenable pour un gentilhomme à cette époque, au moins ses parents en jugèrent-ils ainsi. Son tempérament étant doux et facile, ils se résolurent à le garder à la maison, lui donnant l'instruction strictement nécessaire pour n'être pas déplacé dans le monde. Ce qu'il sut, il l'apprit par lui-même, par la réflexion ou par les lectures qu'il fit plus tard. L'étendue de ses connaissances était cependant remarquable. Mais, comme il arrive à ceux qui s'instruisent sans guide, son instruction manqua toujours d'ordre et de méthode. Considérable sur certains points, elle resta sur d'autres absolument insuffisante. Parvenu à l'âge d'homme, mon oncle se contenta de vivre à la campagne, chez lui, sans ambition, et satisfait de la situation modeste qui lui était faite dans sa famille. Ses frères cadets, beaucoup plus brillants que lui, le traitaient, avec des airs de protection bienveillante, comme une espèce d'original inoffensif. Mais un bonheur inattendu lui tomba du ciel. Il attira l'attention de la jeune fille la plus belle et la plus riche du gouvernement, Nadiezhda Andrievna N. Fut-elle charmée par sa belle figure? Crut-elle avoir trouvé le mari qui lui convenait et pouvoir toujours garder à ses pieds ce grand être humble et dévoué? Dieu le sait. Quoi qu'il en soit, elle lui fit clairement comprendre qu'elle l'accepterait s'il demandait sa main. Jamais Pierre Vassilievitch n'aurait fait cette démarche tout seul. Mais ses sœurs, ses nombreuses tantes et cousines lui expliquèrent si bien le bonheur qui lui tombait en partage qu'avant d'avoir pu s'y reconnaître, il était le fiancé de la belle Nadiezhda Andrievna, prodigieusement riche et tout aussi gâtée. Cette union ne fut pas heureuse, bien qu'il fût acquis pour nos autres enfants, que l'oncle Pierre n'avait d'autre raison d'exister en ce monde que celle de nous faire plaisir, nous sentions instinctivement qu'il ne fallait jamais lui parler de sa défunte femme. Ce sujet-là ne devait jamais être effleuré. Les légendes les plus lugubres circulaient sur le compte de notre tante Nadiejda Andrievna. Les grandes personnes, c'est-à-dire mon père, ma mère et notre institutrice, ne prononçaient jamais son nom en notre présence. Mais notre tante Anna Vassilievna, une sœur cadette non mariée de mon père, prise parfois d'accès de bavardage, racontait de terribles choses sur notre défunte sœur Nadiejda Andrievna. Quelle vipère ! Que Dieu nous en garde ! Elle nous aurait bien mangé, ma sœur Marthe et moi, et mon frère Pierre envoyait de grise. Si quelques domestiques la mettaient en colère, la voilà qui accourait dans le cabinet de son mari, exigeant la punition du coupable, et de sa propre main à lui. Celui-ci, dans sa bonté, cherchait à la raisonner. Allons donc ! Le raisonnement la rendait plus féroce, elle se jetait sur lui, l'insultait des plus vilaines injures. Il n'était qu'un paresseux, indigne d'être homme. C'était une honte de l'entendre. Alors, voyant ses paroles inutiles, elle prenait à plein bras tout ce qu'elle trouvait sur la table, livres, papiers, ce qui lui tombait sous la main, et jetait tout dans le poêle. « Je ne veux pas, criait-elle, de ces ordures-là dans ma maison. » Elle retirait même sa petite pantoufle de son pied et en souffletait son mari. Vrai, elle le souffletait. Et lui, mon pigeon, ne disait rien. Il cherchait seulement à lui tenir les mains, mais doucement, pour ne pas la blesser, et se contentait de dire « Nadiejda, calme-toi. Que fais-tu? N'as-tu pas honte devant le monde ?» La honte, elle ne savait pas ce que c'était. Comment l'oncle pouvait-il supporter de pareils traitements? Comment ne plantait-il pas là sa femme? Nous écrions-nous indignés. Eh, mes chéris, croyez-vous qu'on puisse planter là une femme légitime comme une paire de gants? Répondait la tante Anna. D'ailleurs, il faut bien l'avouer, elle avait beau le bourrer, Pierre n'en était pas moins follement amoureux. Est-ce possible? Une méchante pareille? Il l'aimait tant, mes petites, qu'il ne pouvait vivre sans elle. Quand on l'a exécuté, peu s'en est fallu que dans son désespoir, il ne porta la main sur lui-même. « Que voulez-vous dire, petite tante? Comment l'a-t-on exécuté » demandons-nous avec curiosité. Mais la tante, s'apercevant qu'elle en a trop dit, interrompt brusquement son récit et tricote avec énergie pour prouver qu'il n'aura pas de suite. Notre curiosité est trop enflammée pour se calmer facilement. « Petite tante, ma colombe, racontez, demandons-nous avec insistance. » Et la tante, une fois partie, ne sait probablement plus arrêter ce flot de bavardage. Mais voilà, ses servantes, ses propres esclaves, l'ont étranglée, répond-elle tout à coup. Seigneur, quelle horreur! Comment cela s'est-il passé? Petite tante chérie, racontez! Et nous la supplions. Mais très simplement, raconte Anna Vassilievna. Elle était restée seule une nuit à la maison. Mon frère Pierre et les enfants avaient été envoyés je ne sais où. Le soir, Mélanie, sa servante favorite, la déshabilla, la mit au lit comme d'habitude, puis tout à coup frappa dans ses mains. À ce signal, d'autres servantes qui attendaient dans la chambre voisine, le cocher Fédor et le jardinier parurent. Notre sœur Nadiejda Andrievna s'aperçut à leur air que la chose allait mal tourner. Elle n'eut pas peur, cependant, et ne perdit pas sa présence d'esprit. « Que pensez-vous faire ici, démon? Avez-vous perdu l'esprit? Hors d'ici à l'instant !» Ils furent sur le point d'obéir, effrayés par l'habitude. Mais Mélanie, la plus hardie, les retint. « Lâche, poltron! Ne craignez-vous donc pas pour votre peau? Mais elle vous enverra demain en Sibérie !» Cela les fit réfléchir. Ils se ruèrent en masse vers le lit, prirent notre défunte sœur, qui par les pieds, qui par les bras, jetèrent les matelas de plumes sur elle pour l'étouffer. Elle avait beau supplier, offrir de l'argent, promettre tout ce qu'on voudrait, rien ne les arrêta. Mélanie, la favorite, les dirigeait tous. Une serviette mouillée sur la tête pour qu'il ne reste pas de traces bleues sur la figure. Ils l'ont avoué ensuite eux-mêmes, pendant le procès, sous le fouet, les lâches esclaves. Ils ont alors raconté en détail ce qui s'était passé. Et bien sûr, cette belle affaire ne leur a pas valu les caresses. Beaucoup d'entre eux pourrissent certainement encore en Sibérie. Notre tante se tait et l'horreur nous impose silence. Mais attention, n'allez pas redire ce que je vous ai conté là bêtement, nous recommande la tante. Et nous comprenons bien qu'il ne faut rien raconter. Cela nous ferait des histoires. Mais le soir, au moment du coucher, ce récit me poursuit et m'empêche de m'endormir. J'avais visité une fois la propriété de mon oncle et y avait vu le portrait de sa femme, peint à l'huile, de grandeur naturelle, dans le goût prétentieux du temps. Il me semble la voir vivante. Petite, élégante comme une figurine de Saxe, en robe de velours cramoisi, décolletée, une parure de grenat sur sa poitrine blanche et fortement développée, les joues rondes et hautes en couleur, les yeux grands et noirs, le regard hautain et un sourire banal sur sa petite bouche rose. Et je cherche à me représenter comment ses grands yeux s'étaient démesurément ouverts et l'horreur qu'ils avaient dû exprimer en voyant ses propres serfs si humbles venus pour la tuer. Je m'imagine être à sa place. Pendant que Dunyasha me déshabille, il me vient à l'esprit. Que serait-ce si cette bonne figure ronde allait se transformer et devenir tout à coup mauvaise? Si je voyais Dunyasha frapper des mains, et Ilia, Stepan et Sacha se précipiter dans la chambre, et s'ils disaient « Nous sommes venus vous tuer, mademoiselle !» Cette pensée m'épouvante, quelque folle qu'elle soit. Je ne retiens pas Dunyasha comme d'habitude, et suis presque contente, ma toilette de nuit achevée, de la voir partir en portant la bougie. Mais je ne puis toujours pas dormir. Je reste là dans l'obscurité, les yeux ouverts, attendant avec impatience le retour de mon institutrice, qui est restée en haut, avec les grandes personnes à jouer aux cartes. Chaque fois que je me trouve seul avec l'oncle Pierre, ce récit me revient malgré moi à la mémoire. Et je me demande comment cette âme, qui a tant souffert jadis, peut maintenant jouer si tranquillement aux échecs avec moi, s'amuser à me faire de petits bateaux et s'agiter à propos de quelques projets de ramener le sœur Daria dans son ancien lit ou de tout autre article de journal. Les enfants ne comprennent pas qu'un de leurs proches, avec lequel ils vivent quotidiennement et simplement, ait pu, dans le courant de sa vie, subir des épreuves terribles et tragiques. Par moments, j'ai un désir presque maladif d'interroger mon oncle pour savoir comment les choses se sont passées. Je le contemple longuement, je ne le quitte pas des yeux, et je me représente cet homme gigantesque, vigoureux et intelligent, tremblant devant sa jolie petite femme, pleurant et lui baisant les mains, tandis qu'elle lui arrache livres et papiers ou qu'elle le soufflette avec sa petite pantoufle. Une fois, une seule fois dans mon enfance, je n'ai pu m'empêcher de toucher à ce point délicat. C'était un soir. Nous étions seuls dans la bibliothèque. Mon oncle, comme toujours, assis à lire sur le divan, une jambe repliée sous lui. Je courais dans la chambre en jouant au ballon. Mais, fatigué de cet exercice, je finis par m'asseoir à côté de lui sur le divan, et tout en le regardant, je m'abandonnais à mes réflexions habituelles sur son compte. Mon oncle déposa tout à coup son livre et me demanda, en me caressant la tête, « À quoi penses-tu ainsi, petite ?»« Mon oncle, vous avez été très malheureux avec votre femme ?» Ces paroles s'échappèrent presque involontairement de mes lèvres. Jamais je n'oublierai l'effet produit par cette question inattendue sur mon pauvre oncle. Son visage sévère et calme se sillonna de petites rides comme sous l'empire d'une douleur physique. Il fit, avec le bras, le geste de détourner un coup. Je fus saisi de pitié, de honte, de douleur. Moi aussi, me sembla-t-il, j'avais retiré ma petite pantoufle pour le souffleter. « Mon oncle, mon chéri, pardonnez-moi. J'ai fait cette question sans penser à ce que je disais, » assurai-je en le caressant et en cachant mon visage rouge de honte dans sa poitrine. Et ce fut l'excellent homme qui me consola de mon indiscrétion. Je ne revins jamais sur ce sujet défendu. Quant au reste, je pouvais hardiment interroger mon oncle Pierre. On m'appelait sa favorite, et nous passions des heures entières à discourir ensemble de choses et d'autres. Lorsqu'il était préoccupé d'une idée, il y pensait et en parlait sans cesse. Oubliant complètement qu'il s'adressait à une enfant, il développait souvent devant moi les théories les plus abstraites. C'était ce qui me charmait. Je me sentais traité en grande personne et m'efforçais de comprendre ou tout au moins d'en avoir l'air. Bien que mon oncle n'eût jamais étudié les mathématiques, cette science lui inspirait un profond respect. Il en avait recueilli quelques notions dans certains livres et aimait à faire là-dessus ses réflexions à haute voix en ma présence. C'est lui, par exemple, qui me parla le premier de la quadrature du cercle, des asymptotes, et si le sens de ses paroles me restait incompréhensible, elle frappait mon imagination et m'inspirait pour les mathématiques une sorte de vénération, comme pour une science supérieure, mystérieuse, ouvrant à ses initiés un monde nouveau et merveilleux, inaccessible au commun des mortels. À propos de ses premières notions sur les mathématiques, il faut que je rapporte un détail curieux et qui a contribué à développer en moi un grand intérêt pour cette science. Lorsque pour la première fois nous nous installâmes à la campagne, il fallut réparer toute la maison et mettre de nouvelles tentures dans toutes les chambres, et elles étaient en si grand nombre que le papier manqua pour une de celles destinées aux enfants. Il fallait en faire venir de Pétersbourg. C'était long et n'en valait pas la peine pour une seule chambre. On attendit une occasion, et pendant bien des années, la chambre resta inachevée, le mur simplement tendu d'un papier de hasard. Heureusement, ce papier consistait en feuilles lithographiées des cours d'Ostrogradski sur le calcul intégral et différentiel, jadis acheté par mon père dans sa jeunesse. Ces feuilles, bigarrées d'anciennes et incompréhensibles formules, attirèrent bientôt mon attention. Je me rappelle avoir passé des heures entières dans mon enfance devant ce mur mystérieux, cherchant à débrouiller quelques phrases isolées et à retrouver l'ordre dans lequel ces feuilles devaient se suivre. Cette contemplation prolongée et quotidienne finit par graver dans ma mémoire l'aspect matériel de beaucoup de ces formules, et le texte, quoique incompréhensible au moment même, laissa une trace profonde dans mon cerveau. Plusieurs années après, quand je pris ma première leçon de calcul différentiel avec un célèbre professeur de mathématiques de Pétersbourg, Alexandre Nikolaïevitch Stranoliubski, il fut étonné de la rapidité avec laquelle je saisissais toutes ces explications, comme si je les avais sues à l'avance. Ce fut l'expression dont il se servit. En effet, au moment où il me donnait ses premières notions, je me rappelais soudain avoir vu tout cela sur le mur de ma chambre d'enfant. Et il me sembla que le sens des termes dont se servait le professeur m'était familier depuis longtemps.